Bonjour. Alors, donc, on va effectivement vous présenter de premiers résultats. Enfin, c'est une présentation relativement préliminaire sous cette forme d'un travail qui a été fait donc, dans le courant des deux dernières années sur effectivement la mise en œuvre et la coordination des politiques d'emploi et de formation en France à l'échelon régional et local. Alors, je vais tout d'abord revenir un petit peu, enfin après une petite introduction, je reviendrai d'abord sur le cadre d'analyse des territoires que nous avons retenu dans notre approche, à la fois enfin, du point de vue théorique en particulier. Puis je rappellerai quelques éléments sur la mise en œuvre des politiques d'emploi et de formation en France et les évolutions récentes. Et ensuite, donc, on vous présentera le terrain qu'on a réalisé et puis les principaux résultats autour de deux axes portant d'abord sur la coordination et ensuite sur la notion de territoire. Alors, en termes de contexte, hein, le contexte général dans lequel se situe ce travail, c'est l'idée, donc, évidemment, en France, on a un chômage persistant avec une hétérogénéité qui est aussi forte au point de vue de la dimension locale de l'analyse, avec des inégalités importantes et avec une faible mobilité géographique. Alors, si on situe la France en comparaison internationale, notamment dans le cadre, par exemple, de travaux conduits par l'OCDE, c'est quelque chose qui est souvent mis en avant, comme un des problèmes en fait, des politiques de l'emploi française, qui serait aussi en partie lié du coup, à une insuffisante flexibilité dans la mise en œuvre des politiques de l'emploi aux différents échelons infranationaux. Alors, je précise que ce travail a été fait dans le cadre effectivement, justement d'une analyse pour l'OCDE, qui mène donc, une série de travaux dans différents pays sur la mise en œuvre des politiques d'emploi. Et donc le travail qu'on vous présente ici, c'est le résultat d'analyse qu'on a menée par ailleurs en périphérie de cette étude pour l'OCDE sur la mise en œuvre des politiques d'emploi en France. Mais du coup, on a quelques éléments de cadrage comparatif en plus de ce qu'on peut vous présenter là dans d'autres études qui ont été menées pour d'autres pays. Alors les tendances donc, en termes de contexte, hein, c'est que on a sur les politiques d'emploi et de formation une multiplication des acteurs qui interviennent dans le champ donc, de ces politiques publiques, avec un problème de superposition qui fait qu'on a souvent parlé d'un millefeuille administratif. Bon, c'est un constat qui n'est pas nouveau, mais qui reste tout à fait vrai actuellement. Et puis aussi, plus récemment, ce qu'on observe, c'est des tendances, en tout cas dans le discours, à une volonté accrue de territorialiser davantage les politiques de l'emploi, de manière à les rendre plus efficaces, plus en adéquation avec... la logique qui correspondrait à une logique économique, celle du bassin d'emploi en particulier. Donc ça, c'est l'affichage qui conduit à un certain nombre à la fois de politiques de déconcentration, de régionalisation accrue dans l'action de l'État, de Pôle emploi, etc., mais aussi à des éléments de décentralisation avec des interventions en particulier des régions et puis de certaines intercommunalités, on va y revenir. Alors du point de vue donc, de la perspective d'analyse qu'on a choisie ici, donc on est, comme je vous l'ai dit, dans ce travail pour l'instant dans une version qui est encore une version un petit peu de travail, d'étape pour nous, dans la mise en forme qu'on vous présente ici. Mais ce qu'on souhaite faire, donc, c'est croiser un regard qui est un regard économique et un regard sociologique donc, sur ces analyses du territoire comme un lieu de coordination. Donc je vais aller très vite hein, là-dessus puisqu'on a peu de temps, mais en gros donc, ce qu'on retient principalement, bah, c'est que dans les approches économiques, la définition d'une échelle territoriale optimale est extrêmement compliquée puisque si on retient donc, les analyses d'économie publique locale, on va trouver à la fois des avantages au fait d'aller effectivement coller à un territoire local, des avantages en termes de meilleure remontée de l'information, en termes d'information sur les coûts également, de révélation des préférences, mais on a aussi toute une série d'inconvénients du point de vue des externalités qui ne seraient pas prises en compte, du point de vue des phénomènes de concurrence qui peuvent émerger entre collectivités territoriales, ou même des phénomènes de collusion qu'on peut voir face à l'État central qui cherche à mettre en œuvre une politique qui serait une politique plus unifiée dans l'ensemble du territoire français. Donc cette approche-là n'est pas très conclusive en matière de définition d'un échelon territorial qui serait un échelon optimal de mise en œuvre des politiques d'emploi. Alors l'idée aussi qu'on retient des travaux, des développements de travaux en économie, c'est ce qu'on trouve dans le courant dit de l'économie des proximités, qui va plutôt dans le sens de l'idée selon laquelle la proximité géographique ne suffit pas à définir le territoire, que pour définir un territoire, il faut intégrer l'existant en matière de coordination et d'interaction sociale entre les agents sur le territoire. Et donc ça, c'est une idée qui est une idée effectivement importante lorsque l'on regarde la mise en œuvre des politiques d'emploi à l'échelon local, comme on a pu le faire ici. Alors cela, évidemment, rejoint d'autres concepts qu'on trouve dans les développements des analyses sociologiques, notamment autour de la gouvernance et des analyses en termes de gouvernance, qui là aussi insiste sur le fait que le territoire est avant tout une construction sociale, plus que quelque chose qui se situe dans un espace géographique. Alors, du point de vue donc des évolutions observables dans la mise en œuvre des politiques d'emploi en France et des compétences telles qu'elles sont définies à l'heure actuelle, donc on a eu un processus de décentralisation et de déconcentration très important dans le courant des 20 ou 30 dernières années. Donc du point de vue de la décentralisation, donc l'essentiel, ça a été donc la mission confiée aux régions, la responsabilité de la formation à partir de 2004. Et plus récemment, l'idée selon laquelle les différentes intercommunalités qui ont pu être créées jusqu'au projet actuel sur les métropoles, aurait une responsabilité non pas en matière d'emploi, mais en matière de développement économique. Mais évidemment, on va le voir dans notre analyse, les liens sont assez importants et ça va les conduire souvent à se positionner aussi sur les questions d'emploi. En parallèle, donc, on a par contre tous les mouvements de déconcentration mis en œuvre donc, par les services de l'État central, avec en particulier donc, l'importance du rôle joué par les anciennes directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui ont été remplacées par les directs. Vous êtes sur le schéma, enfin sur le tableau, vous avez les acronymes correspondants, mais donc avec l'idée étant que ces directs prennent en charge non seulement les questions de formation et d'emploi, mais aussi des questions de développement économique. Donc on est bien sur l'idée d'articuler mieux ces différents secteurs de politique à l'échelon de l'État déconcentré en région. Alors par ailleurs, toujours du point de vue de ce mouvement de déconcentration, Pôle emploi par exemple cherche à mettre en œuvre une action qui serait une action davantage régionalisée, c'est dans le plan Horizon 2015 de cet organisme. Malgré tout, donc on a un maintien très fort du contrôle de l'État. Ce maintien il passe tout d'abord par les financements, puisque l'essentiel des financements des politiques de l'emploi relève de l'État, même si on a un accroissement de la part des collectivités locales. Les financements accordés aux échelons déconcentrés sont très peu flexibles. Environ 5% seulement de la masse financière est fongible entre différents types de dispositifs et de lignes budgétaires. Donc on a vraiment quelque chose qui reste plutôt donc, contrôlé par le niveau national. Et on a même aussi des définitions a priori par l'État central de principes de coordination au niveau local, notamment au travers de ce qu'on appelle le service public de l'emploi local, qui en fait fixe une forme de procédure de coordination au niveau à la fois régional et au niveau local. Alors du point de vue de la méthode, très rapidement, donc, on a étudié 6 territoires dans 3 régions au total, donc, ici on n'a pas anonymisé pour cette présentation, mais qui sont Rhône-Alpes, PACA et l'Île-de-France, avec à chaque fois une quarantaine d'entretiens auprès des différents acteurs en charge donc de la mise en œuvre des politiques d'emploi et de formation. Donc c'est des entretiens semi-directifs qui portaient principalement sur les dispositifs et, de manière centrale, sur les outils de coordination existants donc, à l'échelon régional ou local.
Alors, donc moi, je vais vous présenter le premier axe un peu des résultats qui sont issus de cette analyse qu'on a menée et de ces entretiens qu'on a menés dans les différents territoires. L'idée de ce premier axe, c'est de mettre en avant donc, les processus de coordination qui se sont créés à différents niveaux territoriaux et d'essayer de mettre en avant les logiques transversales qui existent donc, entre les politiques de l'emploi, qui sont notre objet principal, mais aussi les politiques donc, de formation et de développement économique qui leur sont très, très liées. Et donc on analyse les différents dispositifs et leurs conséquences à la fois positives et négatives. Donc Christine a rappelé les compétences un peu théoriques, les délimitations des compétences entre l'État qui a gardé la politique de l'emploi dans ses mains, mais qui a décentralisé aux régions la politique de formation et de développement économique, et puis le rôle de plus en plus important des agglomérations. En fait, on se rend compte qu'au-delà de cette répartition des compétences théoriques, on a des compétences de tous les acteurs qui tendent un peu à s'élargir, et en particulier du côté des régions, tout intègre un objectif d'emploi qui, a priori, donc, n'est pas le leur. Ça peut se constater, par exemple, quand on regarde les organigrammes des services régionaux, où en fait, toujours en articulation avec les directions de la formation professionnelle ou du développement économique, on
on constate maintenant des sous-directions et des unités qui s'occupent de l'emploi directement et la mise en place de stratégies de développement régional qui intègrent des analyses sectorielles en termes d'emploi. Donc, par exemple, en Rhône-Alpes, où justement les champs de politique sont assez intégrés, on constate bien un intérêt des régions, et plus qu'un intérêt, la mise en place d'actions en direction de l'emploi. Même si c'est articulé au départ avec les questions de formation professionnelle et de développement économique. Du côté des communautés d'agglomération, on observe également un rôle accru dans le domaine de l'emploi. Alors c'est du côté des communautés d'agglomération et des villes. Donc par exemple, dans le financement d'un certain nombre d'acteurs locaux qui travaillent sur l'emploi, par exemple, il y avait un autre terrain qui était à Marseille, la Maison de l'Emploi de Marseille, est de plus en plus financée par la ville et de moins en moins par l'État. Donc il y a aussi effectivement, ça pose aussi des questions de légitimité de l'État à poursuivre et à donner le là sur le type de politique menée alors qu'il finance de moins en moins au niveau local certaines politiques. Et puis les communautés d'agglomération qu'on a vues en Île-de-France ou en PACA sur d'autres territoires ont des chargés de mission spécifiques sur les questions d'emploi. Donc on voit qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui a priori ne sont pas positionnés dans le champ de l'emploi, qui s'empare quand même de ces questions d'emploi. On a vu aussi que les chambres de commerce et d'industrie, en créant des liens entre acteurs publics et acteurs privés, se mettaient à collaborer aussi avec certains acteurs publics locaux sur des questions d'emploi, notamment d'emploi des jeunes. Ce partage des compétences entre les différents échelons a eu tendance à créer dans certains cas des effets de coordination favorables et des innovations institutionnelles. Donc parmi les structures de coordination relativement innovantes qu'on a pu remarquer, donc les maisons de l'emploi, c'est quelque chose qui a été initié par l'État, donc qui n'arrive pas du niveau qui n'émerge pas d'un niveau infranational, régional ou local, mais qui permet effectivement une coordination des acteurs entre politiques d'emploi, de formation et de développement économique, donc qui joue un peu ce rôle de décloisonnement entre les champs politiques. Et puis, plus spécifiquement, dans les régions qu'on a étudiées, donc en Rhône-Alpes, à travers ce qu'ils appellent les comités territoriaux emploi-formation, en Île-de-France, à travers les pactes, et en PACA, à travers les comités territoriaux éducation-formation-emploi, les régions ont essayé en fait d'aller au-delà de l'outil du service public de l'emploi local qui était imposé par l'État depuis 2011, qui voulait justement un peu coordonner mieux les acteurs au niveau régional. Et en fait, les régions sont allées plus loin en créant ces dispositifs qui essaie justement de faire se réunir des acteurs de différents champs de politique économique, même si c'est à des degrés divers. Et on verra que un des objectifs en fait central de ces formes de coordination, c'est notamment de faire remonter, puisque c'est quand même des dispositifs régionaux, de faire remonter les besoins en formation des territoires. Donc il y a quand même plutôt l'idée de la formation professionnelle qui reste sur le devant. Mais donc par exemple en PACA, où c'est un petit peu moins développé, c'est surtout cet aspect-là qui est mis en avant par les acteurs. Alors qu'en Rhône-Alpes, on voit bien que ça a dépassé la logique de formation professionnelle et ça arrive sur les questions, assez franchement, sur les questions d'emploi. Donc, mais l'idée de ces endroits de coordination, c'est d'essayer d'avoir des diagnostics partagés, adaptés aux territoires particuliers et de proposer du coup des solutions un peu plus adaptées au territoire. Donc l'intégration est un peu plus poussée entre les différents champs de politique économique, même si c'est variable selon les différentes régions qu'on a pu étudier. Donc ce qu'on observe bien, c'est donc un décloisonnement entre les champs de politique publique, entre les trois champs dont j'ai parlé. Donc la territorialisation des actions de formation, avec cette idée qu'il faut faire remonter les besoins de formation des territoires et qu'il y a à peu près deux tiers des achats de formation dans les régions qu'on a étudiées, ou en tout cas en PACA et en Rhône-Alpes, qui sont territorialisés, donc qui sont vraiment basés sur la remontée des besoins des territoires. Et ce qu'on observe aussi, c'est le fait donc que la participation des élus à ce type de structure de coordination, par exemple les comités, les CTEF en Rhône-Alpes, contribuent à ce qui marche bien, puisqu'en fait du coup ça incite finalement les élus, quand ils soutiennent ce type de dispositif, ça leur permet aussi de montrer cela comme un levier pour le développement de leur territoire, donc voilà, dans une perspective d'élus et puis un peu électoraliste d'une certaine manière. Mais donc ils ont généralement ce genre de dispositif fonctionne mieux quand il y a une implication des élus. Et puis sur les liens avec le secteur privé, on a vu aussi que finalement ces dispositifs s'appuyaient plus que certains dispositifs nationaux sur des coopérations avec les entreprises. Donc ça prend des formes très diverses selon les territoires qu'on a étudiés, mais ça, voilà, ça passe par des liens avec des grands employeurs locaux, par exemple à Lyon, ou par des mises en réseau de petites entreprises sur des territoires plus ruraux comme en Ardèche verte, où on a aussi réalisé des terrains. Donc voilà pour les points positifs. Bon, évidemment, il y a un peu un revers de la médaille, et même si effectivement il y a eu des efforts et des avancées dans les processus de coordination entre acteurs, on remarque aussi donc des logiques de résistance au changement et de concurrence un peu entre acteurs, pour faire le lien avec le cadrage théorique qu'on faisait un petit peu au début. On arrive quand même un peu à faire des liens entre ce qu'on a trouvé au niveau empirique et les théories un peu... Enfin, qu'on a présenté au départ. Donc les limites en fait donc à ces évolutions, à ces coordinations qui peuvent sembler relativement favorables, sont essentiellement donc de deux ordres: résistance au changement, concurrence entre acteurs. Du côté de la résistance au changement, on a repéré deux formes de résistance au changement. Tout d'abord, le fait qu'il y avait une difficulté à faire évoluer les structures formelles. Ça se reflète dans différents éléments qu'on a pu constater sur les terrains. Par exemple, la persistance de l'échelon départemental dans certaines, pour certains acteurs qui, a priori, sont positionnés seulement au niveau régional et au niveau étatique, mais en fait, et au niveau local, pardon, et au niveau étatique aussi, comme Pôle emploi, par exemple, mais qui gardent finalement dans leur structure régionale un échelon départemental pour quand même, qui interprète finalement le territoire encore sur la base du département, alors qu'ils sont censés plutôt le gérer sur la base de la région et du local, sans échelons intermédiaires. On a pu voir aussi que dans les dispositifs de coordination innovants, comme les comités territoriaux et formation emploi en Rhône-Alpes, il y avait en fait des persistances de scissions qui existaient déjà entre le politique et le côté plus technique. En fait, les structures, même innovantes, reproduisent parfois, c'est ce qui s'est passé dans le cadre des CTEF en Rhône-Alpes, cette scission entre comité technique, comité politique. Donc il y a des choses qui restent, en fait, des structures qui ont du mal à évoluer malgré les tentatives d'innovation. Et puis on voit aussi qu'il y a des outils qui existent, qui limitent toujours la capacité des acteurs à proposer des dispositifs plus transversaux, notamment des problèmes en termes de financement, et parfois des outils de financement qui sont trop différents et incompatibles, par exemple entre la région et le local, où il peut y avoir des difficultés à monter certaines actions. Et puis du côté des logiques plus informelles, entre guillemets, de résistance au changement, on a vu que même si les acteurs de l'emploi, de la formation et du développement économique essayaient de plus travailler entre eux, le fait qu'ils aient justement une culture professionnelle différente constituait effectivement un obstacle à une intégration parfois plus poussée de ces trois champs de politique publique. Voilà. Et donc du coup, la conséquence finalement de ces formes de persistance, c'est qu'il y a une tendance donc à l'empilement des dispositifs aux différents échelons, que du coup la charge de la coordination s'alourdit également pour tous les acteurs, et que ça peut faire décroître justement la lisibilité des dispositifs au total. Et puis donc sur les logiques de concurrence dont on parlait au départ, on en a relevé quelques-unes, notamment dans le fait que les acteurs doivent chercher de plus en plus de financement auprès d'échelons différenciés. Dans un contexte qui est aussi de plus en plus concurrentiel entre acteurs, ça a un coût d'une certaine manière. Et en particulier quand ils cherchent à monter des dispositifs transversaux, ça peut les freiner dans leur objectif. Et puis on a vu également qu'il y avait des logiques de concurrence sur la question du partage de l'information. Finalement, on essaye d'arriver vers des diagnostics partagés, mais on se rend compte qu'il y a encore des diagnostics faits par l'INSEE, des diagnostics faits par la région, enfin des données qui émergent de différents organismes, et donc un peu encore des superpositions d'informations entre les différents acteurs. Et ce qu'on a constaté, en particulier sur certains terrains, c'est que les divergences politiques renforcent particulièrement ces logiques de concurrence, avec dans certains territoires des clivages politiques entre, bon, par exemple, bon, entre le nord et le sud, disons, c'était sur un territoire. Et donc la maison de l'emploi qui était située sur ce territoire mettait en œuvre plutôt des actions spontanément vers la part du territoire qui finançait plus facilement des actions. Et du coup, évidemment, ça a créé des tensions politiques avec l'autre partie du territoire qui, elle,
étaient moins enclines à financer des actions, mais qui du coup se plaignaient ensuite en retour du fait que la maison de l'emploi ne rayonnait pas sur autant qu'elle le devrait sur l'ensemble du territoire. Donc je vais passer la parole à Jules qui du coup va vous montrer comment la reconfiguration en fait de ces responsabilités entre les différents échelons peut remettre même en question la notion même de territoire.
Ouais, alors là où il faut partir, à mon avis, c'est qu'évidemment, la question du territoire, elle est absolument consubstantielle de celle de politique, enfin, de manière étymologique. On a toujours travaillé la politique sur un territoire. Et là, ce qu'il est intéressant aussi de regarder, c'est que le territoire devient un des éléments de l'argumentaire des politiques. On le retrouve, ça a déjà été dit plusieurs reprises aujourd'hui, notamment dans la session précédente. En ce qui concerne tous les discours sur les bienfaits de la proximité, le fait de donner plus de poids ou de vouloir donner plus de poids ou d'annoncer que l'on va donner plus de poids à la démocratie locale, à la démocratie participative, à tout ce qui concerne la proximité. On a un certain nombre d'auteurs qui parlent à ce titre-là de la nouvelle axiomatique de la proximité. Et le tout, en fait, dans l'idée que travailler sur le territoire devrait permettre une meilleure allocation des ressources. Alors évidemment, ça pose la question mais qu'est-ce que c'est en fait que le territoire ? Parce qu'on a une difficulté systématique à, même nous, à utiliser le terme de manière suffisamment claire pour désigner un espace, un groupe d'individus, un acteur institutionnel. Et ce qu'on voit en fait très clairement, c'est que on a donc depuis quelques années des politiques qui visent qui se présentent comme étant des politiques de territorialisation, on a déjà parlé, de décloisonnement, on en a déjà parlé également, et qui sont souvent rattachés à une politique plus générale de contractualisation. Il y a un auteur qui en parle beaucoup, qui s'appelle Godin. Très rapidement, la question que pose en fait, en termes de territoire, ces politiques, elle est très simple. Si on regarde la politique tout d'abord de territorialisation, au niveau régional, la première façon de considérer le territoire, c'est le territoire juridictionnel. Dans ce cas-là, le territoire, c'est la région. Sauf que si on décide de territorialiser une action, on décide de diviser le territoire régional en différents territoires et souvent en autant de territoires que l'on va créer de programmes. Alors, je précise, en Île-de-France, on a eu ces pactes pour l'emploi, la formation et le développement économique qui visaient, sur ces territoires de pactes, à proposer une action spécifique en termes de décloisonner. En Rhône-Alpes, on a les CTEF qui maillent l'intégralité du territoire. Et du coup, là, ça pose en retour la question de la pertinence du territoire régional. Si on a besoin, pour pouvoir répondre aux demandes spécifiques de chaque territoire régional, de diviser l'intégralité de l'espace régional en différents espaces, dans ce cas-là, quelle est la réalité même du territoire régional ? Et ensuite, je parlais de décloisonnement. L'idée dans ces cas-là, pareil, ça a déjà été annoncé, c'est de dire on ne veut plus traiter uniquement la politique de formation d'un côté, d'un autre la politique d'emploi et encore d'un autre la politique de développement économique, parce que ces trois politiques, elles doivent être conçues de la même manière, elles doivent être conçues ensemble. Donc si elles sont conçues ensemble, il faut a priori qu'elles interviennent sur un espace qui est commun. Le problème, c'est qu'on a, on n'a pas eu le temps de développer suffisamment, mais on a en France un système de décentralisation qui a décentralisé des blocs de compétences aux collectivités territoriales, ce qui fait que le territoire de l'emploi ne correspond pas forcément au territoire de la formation, ni à celui du développement économique. Et dans ce cas-là, on a un croisement entre ces trois logiques, et comment est-ce que les acteurs se trouvent complètement perdus dans la recherche d'un territoire qui soit commun, ce qu'ils appellent souvent un territoire pertinent. On retrouve du coup souvent la volonté de construire un diagnostic partagé, c'est ce que tout à l'heure a dit Mathilde, et ce diagnostic partagé, il participe d'une recherche d'un territoire pertinent commun. Et une manière de participer, c'est le recours notamment aux données statistiques, parce que si, a priori, on réussit à construire des données statistiques permettant de livrer des caractéristiques sur un territoire, c'est qu'on peut donner une réalité à ce territoire. Et en fait, la plupart du temps, les acteurs locaux qui se réunissent dans ces instances qui ont vocation à créer un diagnostic partagé ne réussissent pas à saisir des statistiques qui se répondent, vu que, encore une fois, les territoires vont se croiser, mais ne vont pas se superposer intégralement. Je vais aller un poil plus vite. J'ai quand même un exemple qu'on a trouvé assez parlant, c'est sur Arles, les acteurs qui nous ont expliqué les chevauchements administratifs. Donc on a Arles, puis ensuite on a le pays d'Arles qui rassemble 29 communes. Ces 29 communes, elles sont elles-mêmes divisées en trois établissements publics de coopération intercommunale, donc des EPCI, puis deux communautés d'agglomération, deux COTEF, qui sont donc les structures justement décloisonnées de la région, puis plusieurs bassins d'emploi et plusieurs départements. Et là, on parle juste du chevauchement administratif de certains acteurs qui essaient de travailler sur un territoire. Alors, j'utilise à dessein là, le terme de territoire. Et puis, on a d'autres territoires, toujours des communautés d'agglomération, qui sont dépourvues de maisons d'emploi, qui sont donc des acteurs, je finis, des acteurs de coordination de ces trois secteurs de politique. Donc, elles n'ont pas de maisons d'emploi, elles n'ont pas non plus d'agence Pôle emploi, et sur leur territoire, elles disposent de très peu d'organismes de formation. Donc, à ce niveau-là, comment est-ce qu'à partir de la communauté d'agglomération, qui a été en Île-de-France l'échelon administratif décrété pertinent par la région pour développer sa politique de territorialisation, comment à partir de là on peut construire une action qui ne soit plus sectorielle sur l'emploi, le développement économique et la formation, si de fait elle est déjà dépourvue d'instances d'emploi, enfin qui traitent la politique d'emploi et de formation sur son propre territoire. On a ensuite, et je finirai là-dessus, des acteurs qui cherchent tant bien que mal à se défaire de ces difficultés et qui font appel à la notion de mobilité. Voilà. Alors, comme on n'a pas justement d'organisme de formation, il faut aller chercher ces organismes de formation. Et donc on va dire que le territoire pertinent, c'est le territoire qui concerne la communauté d'agglomération et aussi ses alentours avec une limite en fait, géographique qui correspondrait aux 45 minutes de transport en commun dont les habitants auraient besoin pour se déplacer dans ces organismes. Et le problème, encore une fois, c'est que ça peut éventuellement, et encore, fonctionner dans les territoires qui sont assez bien maillés au niveau transport. Et quand on parle de territoire comme l'Ardèche verte, qui est beaucoup plus rural et beaucoup plus vaste, effectivement, ça ne colle pas du tout. Et un dernier point, c'est que, évidemment, la politique d'emploi qui se trouve au centre de ces trois éléments, de ces deux autres éléments, ajoute une autre difficulté pour appréhender le territoire, qui est la logique de déconcentration. Parce qu'on a en France donc un parallèle entre, d'un côté, une logique de décentralisation qui vise, dans le discours, à donner plus de poids aux acteurs locaux, et une logique de déconcentration, dans ce cas-là, qui vient directement du gouvernement central étatique.